Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou, il est 18h, l'heure de votre journal en français. Aujourd'hui 26 août 2020, vous êtes en compagnie de Rukayatou Abdraman. Au sommaire, l'enrôlement biométrique de la diaspora nigérienne et l'audit du fichier biométrique étaient au centre d'une réunion extraordinaire du Conseil national pour le dialogue politique hier à Niamey à la demande des partis politiques non affiliés. Face aux dégâts causés par les inondations observées dans le 5e arrondissement de Niamey, les sinistrés attendent toujours l'aide du gouvernement selon le chef de village de Lamordi. Dans la partie magazine de ce soir, vous aurez un entretien avec Dalil Maman Agui, chef de mission de Médecins Sans Frontières Niger, sur le fonctionnement du centre de prise en charge des malades du Covid-19 que l'organisation a installé à Niamey. À la demande des partis politiques non affiliés, une rencontre extraordinaire du Conseil national pour le dialogue politique CNDP s'est tenue hier à Niamey. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'enrôlement biométrique de la diaspora nigérienne, l'audit du fichier électoral ainsi que la question du mode de scrutin. C'est ce qu'explique Lawalimato Nasiru, le président du parti CRDN Zamani, membre du comité exécutif des non affiliés.
Nous avons largement discuté, mais la question de l'enrôlement de la diaspora reste en suspens. Ils ont tenu compte de cette question de Covid-19 et dès que c'est possible, la CENI va se redéployer dans les différents pays de la diaspora pour pouvoir enrôler les Nigériens. Nous pensons d'ailleurs que les conditions de l'enrôlement là est possible aujourd'hui parce que la Covid-19 a un peu reculé un peu partout dans le monde. Le deuxième point, c'est l'audit du fichier. Ils ont prévu de remettre le fichier dans une semaine. Nous avons dit qu'il faut nécessairement que l'audit soit fait avant la remise. Ils ont accepté donc ce principe. Ensuite, nous avons discuté de certaines autres questions, notamment la question du mode de scrutin. Et nous avons dit que ce qui peut sauver la démocratie, c'est le consensus général autour d'un mode de scrutin. Et le mode de scrutin qui est convenable, c'est le mode du scrutin qui consacre la proportionnelle au plus fort, pas à la plus forte moyenne.
Commémoration ce matin de l'anniversaire des conventions de Genève par le Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire. Selon Romaric Ferraro, le conseiller juridique du comité international de la Croix-Rouge au Niger, l'objet de la rencontre est d'analyser les aspects du droit international humanitaire qui font face à des défis des propos recueillis par Olivia Sogbavi.
L'anniversaire des conventions de Genève est une date symbolique importante pour le mouvement tout entier de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En effet, ces quatre traités représentent le socle de la protection dont bénéficient les victimes des conflits armés. Ils datent de 1949, mais ils restent plus que jamais actuels et adaptés à l'évolution des conflits armés. Ils continuent de constituer la base essentiel du droit international humanitaire qui s'est cependant beaucoup développé depuis. L'objectif de cette journée de discussion que d'analyser quels sont les points du droit international humanitaire qui font face à des défis et qui mériteraient donc des adaptations et des développements.
Les populations du 5e arrondissement de Niamey sont victimes d'inondations. Depuis quelques jours, plusieurs habitations et cultures à proximité du fleuve Niger sont emportées par les eaux. Selon le chef du village de Lamordé, les sinistrés attendent toujours l'aide du gouvernement. Kwenunga Hamma, le chef de village de Lamordé, témoigne au micro d'Olivia Sogbavi.
Le village de Lamordé est présentement en difficulté. Plusieurs de nos maisons sont tombées et les sinistrés sont maintenant sans abri. Certains sont accueillis par leurs parents proches et d'autres construisent des hangars dans leur cour. Nous sommes complètement inondés. Tous nos effets sont dans l'eau, ainsi que le périmètre. Les champs semés et les non-semés sont tous remplis. Nous sommes à pied d'œuvre nuit et jour. Si nous arrivons à bloquer un endroit, l'eau se fait un autre passage ailleurs. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de caniveau d'évacuation de usée à Lamordé. Aussi, les eaux ne peuvent que stagner dans les concessions jusqu'à l'assèchement. Car en les évacuant, tu ne peux que les reverser chez quelqu'un d'autre. Lamordé est un vieux village. Il n'y a pas assez de voies.
Parlons toujours des dégâts enregistrés ces dernières semaines au Niger. Avant les habitations riveraines du fleuve Niger, ce sont les cultures maraîchères qui ont été envahies par les eaux. Face à cette situation, Alassane Sido, secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA, attire l'attention des producteurs pour plus de vigilance et lance un appel de soutien.
Quand on dit maraîchage, c'est toujours autour des points d'eau, sur le bord du fleuve, dans les quarries ou bien au bord des mares. Et vraiment, avec la suite de l'eau du fleuve Niger, tout est inondé. Les maraîchers, actuellement, la plupart sont sur les digues au bord du fleuve pour la protection des villages environnants. Parce que maintenant, là où il y a la culture, c'est totalement inondé. Et maintenant, les gens cherchent à protéger les ménages. Au premier point, nous avons fait des sensibilisations aux producteurs pour que vraiment ils tiennent connaissance des endroits où la plupart on aurait des inondations, de se préparer. Et au deuxième point, maintenant, quand l'inondation avait commencé, nous avons été sur certains sites. Nous avons même été jusqu'à Tawa et Zander. Et maintenant, nous faisons appel aux autorités de la République, même aux partenaires techniques et financiers, pour que ceux qui en ont les moyens viennent en aide à ces populations.
Les eaux du fleuve Niger qui débordent pendant la saison des pluies et qui occasionnent des inondations et de dégâts pourraient être aussi une source de bonheur pour le pays si les ressources en eau sont très bien gérées. Selon Maynassara Ibrahim, ingénieur hydrologue à l'Institut de recherche pour le développement IRD, les eaux drainées par les cours d'eau importants peuvent être récupérées et utilisées dans divers domaines pendant l'étiage. Maynassara Ibrahim au micro de Mokhtar Hamadou.
Le système hydrologique, c'est un ensemble de bassins, ça draine toute l'eau et elle est recueillie dans un cours d'eau principal. Dans le cas de l'ouest nigérien, c'est le fleuve Niger qui se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. L'eau coule et en période sèche, les gens vont dire encore qu'il n'y a pas d'eau. Donc il faut prendre des mesures pour faire des ouvrages de stockage parce que ce cours d'eau maintenant est géré dans le cadre de l'ABN. Il doit y avoir des programmes structurants qui permettent vraiment de stocker cette eau pour qu'elle soit mobilisée au moment de l'étiage. C'est vraiment construire des ouvrages, des barrages qui permettent de stocker cette eau-là et de l'utiliser au temps où on n'en a pas assez.
Bientôt, moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Dogandouki, région de Dosso. Deux stations de pompage sont en cours d'exécution pour pallier le problème d'approvisionnement en eau des troupeaux et éviter ainsi leur descente précoce vers le sud. Maïgoudani Alpha, le secrétaire général permanent de la commission foncière, explique au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Dans le département de Douchi, le plus souvent par rapport à la date de libération des champs, quand on se réunit, chaque fois quand on demande aux éleveurs pour quelles raisons ils descendent précocement dans les champs avant la date, ils disent que c'est le manque d'eau. Par rapport à ce problème récurrent dont ils parlent, on a eu auprès des partenaires la réalisation d'une station de pompage pastoral à Faringuemi. Déjà le forage est fait. Cette station de pompage pastoral va également servir aux agriculteurs qui gravitent tout autour de Faringuemi. Ils n'auront plus de problème d'eau, Inch'Allah. On a également foré une station de pompage pastoral à Kalki, dans la commune de Dankazari, ce qui va nous amener à au moins 5 stations de pompage pastoral dans le département de Douchi. Et nous pensons que c'est suffisant pour parler au problème d'eau, en tout cas dont parlent les éleveurs.
Plus fort avec le lait maternel est une campagne sur l'allaitement initiée par les autorités sanitaires du Niger. Selon la directrice de la nutrition, il s'agit de faire la promotion de l'allaitement exclusif sans eau pour les nourrissons jusqu'à 6 mois et pour mieux sensibiliser l'implication de tous est nécessaire. Madame Diallo Amsatou Diakité, directrice de la nutrition au micro de Salamout Kadri.
C'est une campagne qui concerne tout le monde, que ce soit les décideurs politiques, les mamans, les journalistes. C'est une campagne dans laquelle tout le monde a un rôle à jouer. Et aujourd'hui, nous avons fait appel vraiment à tous les médias, que ce soit les médias privés, publics, la presse écrite, pour vraiment les informer sur ce que nous comptons organiser, pour qu'ils puissent apporter leur contribution. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les journalistes. C'est eux qui sont capables de porter vraiment notre voix là où on voudra qu'elle arrive. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé utile d'organiser cette session avec les journalistes afin de les briefer, parce que c'est une campagne qui va durer 3 ans et nous avons vraiment besoin de leur appui et de leur contribution pour qu'ils nous aident à faire la promotion de l'allaitement maternel sans eau.
Chaque année, les meilleurs élèves des 8 régions du Niger sont invités à Niamey pour un programme dénommé Tour d'excellence qui a débuté hier. Pendant une semaine, ces élèves vont bénéficier de formations et de visites sur le terrain afin de semer un esprit d'entreprise très tôt, explique la promotrice. À cette 5e édition, Rabi Arzik a fait le bilan de l'événement.
Le Tour d'excellence, c'est un programme que nous avons mis en place dans le cadre de la promotion de l'esprit d'entreprise. Ça fait aujourd'hui la 5e édition. Avec la régionalisation des universités, on a créé le taux d'excellence pour permettre aux étudiants, aux élèves de se connaître très tôt, même s'ils ne sont plus de la même région. Au moins, c'est comme si on a créé un internat virtuel. Le but du taux d'excellence, c'est d'ouvrir les yeux des jeunes très tôt pour qu'ils soient des vraies semences pour notre pays. 5 ans après, aujourd'hui, je suis fier de voir des enfants. Simplement parce que je leur ai dit, si vous demeurez meilleur, vous allez toujours venir au taux d'excellence. Cette joie de voir quelqu'un demeurer persévérant parce qu'il veut venir au taux d'excellence, pour moi, c'est déjà gagné.
Alors ma chère, tu vas bien? Quelles sont les nouvelles?
Très bien ma copine. Et toi, ça va?
Ça va, alhamdoulaye. Tiens, pendant qu'on y est, je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Ah oui, je t'écoute. Raconte alors.
Tu sais, hier, je quittais le marché dans les Fab-Fab-là. Donc j'ai écouté une conversation entre deux femmes. L'une expliquait à l'autre le rejet dont est victime sa fille infirmière, dans son quartier et même dans sa propre famille.
Non, tu es sérieuse là? Rejet à cause de quoi même?
C'est une infirmière. D'après les propos de la mère, la fille est rejetée de tous. Personne ne veut s'approcher d'elle. Tout le monde a peur d'elle depuis l'apparition de la COVID-19.
Mais attends, qu'est-ce qui explique ce comportement des gens?
C'est la peur due à la COVID-19. Du coup, les malades et ceux qui sont en contact avec eux sont rejetés, repoussés. Tout le monde a peur d'eux.
C'est vraiment dommage, ma chère.
Je te dis, toujours d'après sa mère, elle passe tout son temps à pleurer et refuse de manger et d'aller au boulot.
Mais là, il faut vraiment que les gens sachent que le social est très important face à cette maladie.
Voilà.
Nous avions besoin de nous soutenir les uns les autres. Le personnel soignant a besoin d'encouragement. Les malades ont besoin de notre soutien. Et les autorités ont besoin de nos efforts, nos engagements à sensibiliser sur les gestes barrières à respecter contre cette maladie.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition, pour appuyer le gouvernement nigérien dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, l'organisation Médecins sans frontières, MSF, a créé à Niamey un centre de traitement et prise en charge des malades du COVID-19. Comment ce centre fonctionne? Dalil Maman Hadi, chef de mission Médecins sans frontières Niger, répond aux questions.
Pour ce qui est du cas du Niger, rapidement, en collaboration avec le ministère de la Santé, ici à Niamey, on a construit un centre de traitement de prise en charge des patients atteints de COVID d'une capacité de 50 lits où on a réussi quand même à prendre en charge environ 30 patients dont 28 sont sortis guéris. D'autres ont été référés vers l'hôpital général de référence pour des raisons de suivi rapproché.
Vous avez tout à l'heure évoqué le centre que MSF a installé. Pouvez-vous nous dire un peu comment fonctionne le centre, comment se fait surtout la prise en charge?
C'est un centre qu'on gère en collaboration avec l'hôpital Amirou Boubacar Diallo. C'est un centre qui a environ 150 staff et qui fonctionne 7 sur 7, qui fonctionne en autonome. On avait dès le départ défini un peu les critères des patients qui doivent arriver dans ce centre. Tous les patients nécessitant des soins spécifiques, surtout avec assistance respiratoire, sont dirigés vers l'hôpital général de référence et tous les patients modérés peuvent être suivis au niveau de ce centre.
Et maintenant, quelle est la situation actuelle de ce centre? Ces derniers temps, on enregistre de moins en moins de cas positifs au COVID-19.
Exactement. Et résumé pour le Niger. Donc aujourd'hui, on est dans une discussion avec l'équipe du ministère de la Santé par rapport à une réduction consécutive du personnel au niveau de ces centres et aussi à la réduction des activités vu qu'il n'y a pas aujourd'hui des patients. Donc on avait pris un peu du temps parce qu'avec l'ouverture des frontières depuis le 1er août, on a dit qu'il faut quand même garder encore opérationnel ces centres. Peut-être on pourrait enregistrer d'autres cas.
Quelle approche stratégique comptez-vous adopter pour être toujours aux côtés de la population, du gouvernement nigérien, pour toujours les aider à gérer cette crise?
On va renforcer la sensibilisation au niveau communautaire, à Niamey et comme dans d'autres villes, parce que quand même c'est toujours important que la population accepte et apprennent à vivre avec cette maladie. Et dès que les gestes barrières sont respectés, les mesures IPC sont respectées, le port de bavette est accepté, et ça pourrait beaucoup limiter la transmission. La base de tout reste vraiment la sensibilisation à base communautaire et de proximité.
C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.